إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، aujourd'hui nous allons parler de la khutba, de la prêche du vendredi et certaines règles liées à cette prêche-là. Awalan, le fait de faire le prêche le jour du vendredi, quel est son statut religieusement parlant? La majorité des savants de l'islam voient que le statut, que la prêche du vendredi, huwa shartun min shuruti sihhati salati al-jumu'ah. C'est une condition de validité de la prière du vendredi. C'est-à-dire qu'une prière de vendredi sans prêche, ce n'est pas une prière de vendredi. Elle est invalide. Et pour dire qu'il y a prière de vendredi, il faut une prêche, obligatoirement. Quelle est la preuve de cela? Premièrement, قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وما هو الذكر المذكور هنا؟ كما نراه في الحديث الذكر هو الخطبة. Allah tabaraka wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, quand on fait l'appel pour la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah. Et cette évocation qui est citée ici dans le verset, qu'est-ce que c'est? C'est la prêche du vendredi. Quelle est la preuve de cela? Premièrement, le hadith rapporté par Muslim, qui est un hadith sahih, wa allaqahu al-Bukhari, idhan samma al-khutbata al-dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'imam sort, les anges participent, sont présents et ils écoutent le dhikr, ils écoutent le rappel, l'évocation. Donc il a appelé ici dans ce hadith la khutbah, la prêche du vendredi, le dhikr. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'accourir vers le dhikr, vers la khutbah. Si pour le wasila, le moyen d'arriver à une chose, elle est obligatoire. فَغَيَتُهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى أَلَيْسَ كَذَلِكَ. Si le moyen d'aller à une chose, elle est obligatoire, alors cette chose en elle-même, elle est encore obligatoire. De surcroît, c'est-à-dire, il y a sans aucun doute. Si Allah, il a obligé d'accourir pour écouter la khutbah, c'est-à-dire d'aller à la khutbah, les pas pour y aller, le fait d'y aller, c'est obligatoire. Donc, écouter la khutbah et que la khutbah soit présente, comment elle ne pourrait pas être obligatoire? De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours fait le khutbah, jamais une seule fois, il a toujours fait la prière du vendredi, jamais une seule fois il a délaissé la khutbah, la prêche du vendredi. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parler pendant la prière du vendredi. Donc si ce n'était pas obligatoire, comment il aurait interdit de parler? Si c'était juste recommandé, les gens auraient le droit de parler, les gens auraient le droit d'être occupés avec d'autres choses, etc. Donc voilà ce qui prouve que c'est une condition de validité de la prière du vendredi, c'est la khutbah, la prêche que l'on fait le vendredi. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait des prières du vendredi qu'en faisant des prêches, comme on a dit, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours fait la prêche, donc cela prouve que c'est une condition de validité de la prière du vendredi. De même que la personne qui n'a pas eu une rak'at avec l'imam, qu'est-ce qu'il doit faire? 4 rak'at, il priera dhuhr. Donc si la prière du vendredi était valable sans la khutbah, pourquoi on lui dit de faire 4 rak'at? Pourquoi elle ne serait pas obligée de faire juste 2 rak'at de Jumu'ah? Donc voilà toutes les preuves qui prouvent que khutbatul jumu'ati awwalan wajiba, elle n'est pas seulement obligatoire, mais c'est une condition de validité de la prière du jumu'ah. Un jumu'ah sans khutbah, c'est pas un jumu'ah. De même que c'est obligatoire pour le jumu'ah de faire 2 prêches et de s'asseoir entre les 2 et debout, sauf si on a une excuse valable de ne pas le faire debout. Quelle est la preuve de son obligation? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rend quelque chose, Allah ta'ala a rendu quelque chose obligatoire, le prophète alayhi salatu wa sallam, puis il nous montre comment le faire. La manière dont il nous montrera, ce sera une manière obligatoire à suivre. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Donc on dira que les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dans la prière sont obligatoires, sauf s'il y a une preuve qui prouve qu'ils ne sont pas obligatoires. Car il nous a dit de le suivre et de prier comme il nous a vu prier, etc. Prenez de moi vos rituels du pèlerinage. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Prenez de moi vos rituels », ça veut dire que tout ce qu'il a fait, faudra le faire, sauf s'il y a une preuve qui vient prouver que ce n'est pas une obligation. Non. Et en ce qui concerne le fait de rester debout, le hadith de Jabir ibn Samura. Jabir ibn Samura a dit, j'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus de 2000 prières. Et il dit, il a toujours fait les prêches debout. Et il s'asseyait entre les deux prêches. Si c'était permis de faire autrement, au moins une fois ou deux fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait autrement pour montrer que c'est permis. Les bayan et jawaz. De même que Ka'b ibn Ujra rapporte qu'il est entré à la mosquée et Abdullah ibn al-Hakam, il faisait la khutbah assis. Il a dit, regardez-moi ce sale. Il fait la khutbah assis alors qu'Allah tabarak wa ta'ala, en parlant des compagnons, il dit, ils sont partis à leur commerce et ils t'ont laissé debout. En parlant du prophète alayhi wa sallam. Donc ceci prouve que le fait de faire la khutbah debout, c'est une obligation. Et de faire deux khutbahs, deux prêches, c'est une obligation, sauf s'il y a une excuse valable. Si la personne ne peut se mettre debout, il lui sera permis dans ce cas-là de s'asseoir. Là, on va parler de quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que c'est une khutbah obligatoire? On ne parle pas du mieux. On ne parle pas de la sunna. La manière de faire de la khutbah dans la sunna, ce qui est recommandé, ça on va le voir juste après. Mais qu'est-ce qui fait qu'une khutbah elle est valable ou qu'elle n'est invalide? Est-ce que c'est juste le fait de dire Alhamdulillah et quelques versets? Est-ce qu'il y a des paroles obligatoirement à dire ou non? Pour qu'une khutbah soit valide, il n'y a aucune condition en ce qui concerne ni dire Al-Sana Al-Hamd, ni lire le Coran, ni dire tel ou tel verset, ni même parler de la taqwa ou pas parler de la taqwa. Pour qu'une khutbah soit valide, il faut qu'elle fasse son rôle. C'est quoi le rôle de la khutbah? Al-maw'idha. Que le prédicateur, le prêcheur, il exhorte les gens. L'obligation dans la khutbah, c'est l'exhortation. Tout le reste, ou bien ce sont des introductions ou tu finis avec. Un exemple. Quelqu'un, il vient, il se lève, il ne dit pas Alhamdulillah, il ne fait pas salat al-Nabi, il ne fait pas khutbatul haja, il ne fait rien. Il se lève, oh vous mes frères, craignez Allah. On va rendre des comptes yom al-qiyam, etc. Il s'assoit, il se relève, il dit je ne sais quoi, il dit quelques paroles. Il se descend, il fait la salat. Est-ce que sa khutba, elle est valide? Elle est valide. Si quelqu'un, comme ils font dans certains pays, il se lève, Inna alhamdulillah, ta 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 ta, khutbat al-haja par cœur. Après, il s'assoit. Est-ce qu'il aura fait une khutba? Il n'a pas fait une khutba. Il a fait une introduction, après il est descendu. T'as fait les prières, t'as fait les louanges à Allah, t'as fait les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il faut rentrer dans le vif du sujet, il faut l'exhortation. Et il y a beaucoup de pays, surtout Inde al-Ajam, les non-arabophones, ils font ça. Beaucoup de pays non-arabophones, qu'est-ce qu'ils font? L'imam, il vient avant le Jumu'ah. On a dit est-ce que c'était valable? Est-ce que c'était permis de parler avant le Jumu'ah? On a dit que ça se faisait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Il vient, il fait son dars en sa langue avant le Jumu'ah. Il parle. Après, il se lève, la khutbah, elle dure 5 minutes. Il se lève, il récite un papier toujours le même, chaque khutbah. Il s'assoit, salam alaikum, c'est fini. Est-ce que c'est ça le khutbah? Non. Si vraiment il avait besoin, il fait la majorité une partie en arabe et même s'il y a divergence sur le fait de c'est permis de parler en français ou non, à la kulli hal, si on dit que c'est permis, il fait une partie de sa khutbah ou la deuxième khutbah en une autre langue, les gens ils le comprennent. Mais là, il fait quoi? Il parle avant, en fait il fait sa khutbah avant, assis sur la chaise, et après il se lève et l'autre khutbah qui est l'officiel, c'est juste des choses par cœur qu'il répète et il descend et fait deux rak'at. Donc l'objectif de la khutbah, Et le minimum pour qu'une khutbah, pour qu'un prêche soit acceptable, c'est l'exhortation. C'est que l'imam, il exhorte les gens à craindre Allah, à obéir à Allah, etc. Quoi que ce soit, l'exhortation à ad-din. Non. Maintenant, on va voir la manière du prophète, alayhi salatu wassalam, de faire la khutbah. Awalan, commencer la khutbah bihamdillahi tabarak wa ta'ala wa thana alayhi wa salati ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tashahud. Commencer la khutbah en louant Allah, en faisant les prières et les bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en faisant l'attestation de foi, comme ça a été rapporté par Jabir ibn Abdillah. Sa khutbah le jour du vendredi était, il loue Allah tabaraka wa ta'ala, puis il dit, celui qu'Allah guide, il n'y a personne pour l'égarer, celui qui l'égare, il n'y a personne pour le guider, et la meilleure parole est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, que dans le hadith de Humayd al-Sa'idi, qui est rapporté par le Bukhari, rahimahullah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, après la prière, il a fait l'attestation de foi, il a loué Allah tabaraka wa ta'ala, puis il a dit, ainsi donc, amma ba'du, ainsi donc, puis il a commencé à parler. De même que c'est une sunna, et c'est recommandé de faire khutbatul haja. Khutbatul haja, elle a été appelée comme ça, la khutbah du besoin, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans ce hadith rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi al-Nasa'i ibn Majah, ou un hadith sahih. On peut donner quelques sens peut-être de cette khutbah, pour que les gens qui ne comprennent pas l'arabe, plus à chaque fois qu'ils l'entendent, au moins ils savent ce que ça veut dire à peu près. Donc il disait louange à Allah, nous le louons, on prend aide auprès de lui, on lui demande pardon, et on demande Allah, protection à Allah contre le mal de nos âmes nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il n'y a personne pour l'égarer. Celui qui l'égare, il n'y a personne pour le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah, seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Puis il lisait les trois versets qu'il a l'habitude de lire. Le premier verset, c'est le verset 102 de Sourate Ali Imran. Le deuxième, c'est Sourate Al-Nisa. Et le troisième, c'est 70-71 de Sourate Al-Ahzan. Donc voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses prêches de cette manière-là. Jabir ibn Abdillah a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, faisait la prêche, « Ihmarrat aina » ses yeux devenaient rouges. « Wa ala sautu » et il élevait la voix. « Wa jtadda ghadabuhu » et sa colère était forte. Comme s'il était en train de mettre en garde contre une armée d'ennemis qui était en train de nous attaquer. Donc voilà la khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il élevait la voix, ses yeux, ils devenaient rouges. Jusqu'à que dans une version, il est dit, ses veines jugulaires, elles étaient gonflées quand il parlait sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Pendant la khutbah. Donc la khutbah, c'est comme ça que ça doit être fait. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Et il a dit, il disait, j'ai été suscité, moi et l'heure, comme ces deux doigts. Et il faisait comme ça. C'est-à-dire que je suis très proche de l'heure. De même qu'il disait, Amma ba'du. Certes, la meilleure parole est la parole d'Allah, la meilleure guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des affaires, c'est les inventions. Et toute invention est une innovation. Et tout égarement est au feu. Non. D'ailleurs, il a été rapporté dans des versions véridiques qu'Omar ibn al-Khattab et Abdullah ibn Mas'ud commençaient leur khutbah de cette manière-là aussi. De la manière que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Idan, hariyum bina an nata'assa bin nabi sallallahu alayhi wasallam fi kulli shay wa khassatan fi da'watihi linnas. Donc, il nous incombe de quoi? De suivre le prophète alayhi salatu wasallam dans toutes choses et surtout dans la manière dont il prêchait les gens et dans la manière dont il faisait le prêche du khutbah. Kadhalika min as-sunnati, parmi la sunna, tafkhim amr al-khutbati wa raf' as-sawt kama ra'ayna. Donner, c'est-à-dire agrandir, donner de la valeur à la khutbah et élever la voix. Comme on a vu dans le hadith de Jabir auparavant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il parlait fort, ses yeux devenaient rouges et sa colère était forte quand il faisait la khutbah. La sunna dans la khutbah, c'est de raccourcir la prêche et d'allonger la prière. Naam. Ammar ibn Yasir a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la longueur de la prière d'un homme et la petitesse de sa prêche, c'est une preuve qu'il a de la connaissance. Alors il a dit, allongez cette prière et raccourcissez la prêche, car dans la prose, il y a de la sorcellerie. Wa an Jabir ibn Samura, il a dit, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sa prière était qasdan, c'est-à-dire était plus ou moins courte, et elle allait droit au but, et sa khutba, aussi sa prêche, était qasdan, elle était courte. Et dans une version, la yutilu, n'allongeait pas trop son exhortation le jour du vendredi, c'était quelques paroles. Si quelqu'un fait le khutba d'ailleurs dans une seule langue, normalement, un quart d'heure, il a tout bouclé. Et dans le fait de faire une khutba courte, il y a fa'idatan, deux intérêts. Le premier intérêt, les gens ne s'ennuient pas. Quand c'est trop long, les gens s'ennuient. Ils ne sont pas capables de se concentrer longtemps. Et le deuxième profit et intérêt, c'est que les gens ils peuvent retenir ce que le khatib il a dit. D'ailleurs, c'est pour ça que le khatib aussi, il doit être concentré. Dans une khutba, il ne se lève pas, il parle de tout. La khutba, c'est fait pour exhorter les gens. Bien sûr, on tient compte de ce qui se passe autour de nous. Mais on les exhorte. On les motive à craindre Allah. Par exemple, s'il y a des tremblements de terre, on va leur parler du châtiment d'Allah et du tremblement et du peur du Yom al-Qiyam, par exemple. Mais il ne faut pas que la khutba, ça devienne un journal télévisé. Oui, les frères, vous avez entendu ce qui s'est passé dans tel endroit, telle heure, dans tel journal, tatati, tatata, là. De même, on a dit donc, faire la khutba courte, c'est la sunna, quand il y a un besoin, c'est permis de temps en temps de faire un peu plus long. Mais ça ne doit pas être l'habitude. Quelle est la preuve de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a déjà arrivé de temps en temps de lire surat Qaf en entier et de faire ta'liq. De lire surat Qaf en entier et de l'expliquer. Donc combien de temps ça prend? C'est long. Et d'ailleurs, il y a certaines parmi les sahabiyats qui ont appris surat Qaf de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le khutbah. De même qu'une fois, il a lu d'autres surats qui sont assez longues en entier dans le Jumu'ah. Donc s'il y a un besoin de temps en temps, ça peut être permis de faire long, mais ça ne doit pas être l'habitude. De même que ce n'est pas une sunna de lire dans la khutba tout le temps des versets en rapport avec la khutba. Par exemple, dans le khutba, il parle de riba. Dans les versets dans Salat, il va faire avec les ayats de riba. Dans le khutba, il parle de la mort. Dans Salat, il va faire des réciter avec des versets sur la mort. Là, le prophète, alayhi salam, dans ses khutbas, dans ses prêches, il parlait de plusieurs choses. Dans sa salat, il disait toujours « Sabbih isma rabbika al-a'la » ou « Hal ataka hadith al-ghashiyah » ou bien « Al-jum'a » ou « Al-munafiqun » Donc, il ne changeait pas, ce n'est pas lié. Kadhalika min as-sunna, parmi la sunna, c'est de lire des versets du Coran dans la khutba. Aujourd'hui, il y a des khutaba, tu vas t'asseoir avec lui, du début à la fin de la khutba, c'est de la philosophie. Il n'y a pas un verset, pas un hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'asseyait entre les deux prêches, il exhortait les gens, et lisez des versets du Coran. Donc l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lire des versets du Coran dans la khutba. D'ailleurs, les savants ont divergé sur le fait de lire surat Qaf dans le khutba. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que lire surat Qaf, c'est tout? Ou est-ce que il l'expliquait? Certains disent qu'il ne faisait que lire car il y avait assez de rappels et sahaba, ils comprenaient. Ils n'avaient pas besoin d'explication sahaba. Tu leur donnes les versets, ils comprenaient directement. D'ailleurs, ce n'est pas sunna d'embellir la voix quand tu lis le Coran dans la khutba. Quand tu fais dans la khutba, tu parles, tu lis le Coran comme tu parles. On a lu tous les hadiths qui parlent de la khutba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il lisait le Coran. Et comment il nous a dit Jabir, comment il faisait la khutba? Il élevait la voix comme s'il était fâché. Il n'a pas dit quand il lisait le Coran, il embellissait sa voix. Non, c'est-à-dire du début à la fin, c'était comme ça. De même qu'il est permis, ça c'est minat sunna, ça a été rapporté d'Omar ibn Khattab et d'Abu Musa al-Ash'ari, Ammar ibn Yasir, que si dans le khutba on lit un verset dans lequel il y a sujud tilawa, il y a une prosternation liée à la lecture du Coran, de descendre et de faire le sujud et de remonter sur le minbar. Tayyib, une autre question. Les gens ils viennent, ils font une sadaqa à la mosquée, ils donnent son nom, ils disent, énonce mon nom dans le khutba. Faites dua pour moi, dans le khutba. Ou une autre, il donne à l'imam le vendredi, fait dua pour tel, fait dua pour si, l'autre son fils il est malade, l'autre sa grand-mère elle va en voyage, L'autre, il passe un examen. Alors toi, dans le khutba, tu vas, vas-y, donnez-moi vos prescriptions. Ou un anad'ulakum. Hada ma anzal Allahu biha min sultan. Ça n'existe pas fi din hada shay. Et encore pire, il y a des choses interdites dans ça. Premièrement, pourquoi tu veux qu'on énonce ton nom? T'as fait sadaqa wa lillah. Deuxièmement, pourquoi tu fais sadaqa contre quelque chose? Tu fais sadaqa, t'as pas besoin de demander une dua. Tu demandes rien. Tu donnes pour Allah. Si l'homme, il te fait dua, normalement, nous, on fait dua, sans qu'il demande. Sur place. Par exemple, il donne, on dit Allahumma barik la, Allahumma salli ala ali fulan, kama qala an-nabi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est tout. Mais jamais sahaba, il donnait, il disait, ya Rasulallah, fais dua pour moi. Ça ressemble aux chrétiens, ça. Nous, on n'a pas d'intercesseur. Amma yujibu al-muttarra idha da'a. Qui répond à l'acculé quand tu lui demandes? T'as un problème, lève les mains, pleure, demande à Allah. Allah, il te donne. Pourquoi tu vas voir quelqu'un pour demander? Pourquoi? Toi, t'es dans le problème. Allah, il connaît ton problème. Lève les mains, Allah, il va te donner. Demande à Allah. Demander de dua à quelqu'un d'autre, ça se fait pas. C'est pas haram, c'est détestable. Si tu demandes de dua à quelqu'un, t'as le droit dans deux conditions. Tu lui demandes de faire dua pourquoi? Parce que tu sais que quand il va faire dua pour toi, l'ange il va dire amin et à toi la même chose. Donc en fait tu lui dis fais dua pour moi dans l'intention que c'est lui qui en profite. Pas parce que toi tu veux profiter de sa dua. Non, pour que lui il profite de la dua qu'il va faire pour toi. Ça tu peux le faire. Ou bien tu lui demandes une dua lil umma am. Pour la umma en général. Fais dua pour la umma. Regarde la umma. Le khutba, ça a des règles. C'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua à la fin de la khutba. De temps en temps tu fais, de temps en temps tu fais pas, d'accord. Mais faut pas croire que c'est sunnah de faire dua à la fin de la khutba. À condition qu'il répète pas les mêmes dua. Certaines dua qui croient que c'est sunnah, elles sont pas sunnah. Comme les paroles aqul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Ça c'est des paroles qui ont été rajoutées, c'est un hadith da'if. Si quelqu'un l'a dit comme ça, aridan, de temps en temps, mais il faut pas croire qu'à chaque jumu'ah il faut le dire. Non. Quelle est la preuve du fait que c'est permis de temps en temps de faire dua? Le hadith de Ammara ibn Ru'aybah. Il a vu Bishr ibn Marwan lever les mains dans le dua, dans la khutbah, et il lui a dit, qabbah Allah hatayn yadin. Qu'Allah enlaidisse ses deux mains, il a dit. Il a dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire le khutbah, il ne rajoutait rien à part faire ça avec son doigt. Dans ce hadith, il y a deux leçons à tirer. Première leçon, Ammara ibn Ru'aybah, il n'a pas reproché le fait de faire dua. Mais ce qu'il a reproché, c'est le fait de lever les mains pour faire dua. N'est-ce pas? Donc ça prouve que le fait de faire dua de temps en temps, on ne le reproche pas. La deuxième des choses, que c'est détestable, et que c'est même une bid'a de lever les mains dans le dua, dans la khutbah. Pendant la khutbah, l'imam, quand il fait, s'il fait dua, il fait comme ça avec son doigt. Hein, c'est tout. Même le ma'moumin, les gens qui sont avec l'imam, ne lèvent pas les mains avec lui. Il y a khilaf sur cette mas'ala sur le ma'moumin. والصحيح c'est que les ma'moumin sont تبعا للإمام. Pourquoi on les appelle les ma'moumin? Pour suivre l'imam. Si l'imam ne lève pas les mains, pourquoi il lève les mains? Il a été rapporté aussi dans le hadith de Sahl ibn Sa'd. C'est un hadith Hassan rapporté par Abu Daoud. Il a dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever les mains dans sa dua sur le mimbar, en faisant dua dans le mimbar ou autre, sauf que je l'ai vu faire cela avec son doigt. Lier, faire un cercle avec son pouce et son majeur et tendre son index. Non. Mais ça a été rapporté et l'exception à cela, c'est dua ou istisqa, c'est la dua pour demander la pluie. Ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le khutbah, il a déjà levé les mains pour demander la pluie. Et c'est le seul cas où on lève les mains pour faire dua pour dans le khutbah, c'est pour demander la pluie quand il y a des sécheresses. Aussi, éviter de faire trop de poèmes dans le khutbah. De temps en temps, tu ramènes un chien. Mais toute ta khutbah, c'est des poèmes. Non. Kadhalika, chercher absolument à faire des rimes dans la khutbah, comme les gens ils font aussi dans Salat al-Tarawih, dans Dua al-Qunut. Est-ce que Sahaba et Nabi, ils ont fait ça? Jamais. Ils se levaient les mains, ils faisaient quelques dua simples et c'était fini. Il est permis de s'appuyer sur un bâton pendant la khutbah. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique de faire cela. Comme on va le voir dans les hadiths que nous allons citer. Le premier, le hadith de l'Hakam ibn Huzn al-Kalafi, dans l'histoire de quand ils sont arrivés pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprendre l'islam, il a dit on est resté auprès de lui plusieurs jours. Et on l'a vu faire la prière du vendredi.
Et il s'appuyait sur un bâton ou sur un arc. Sur un bâton ou sur un arc. Il est rapporté ce hadith par Abu Daoud et Ahmad et Abu Ya'la et Ibn Khuzayma. Et c'est un hadith sahih. De même qu'il a été rapporté dans un autre hadith sahih rapporté par Muslim et Abu Daoud. Le hadith de Fatima bint Qais. Qu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam appuyé sur le mimbar avec un bâton. Les savants ont divergé, est-ce que c'est une sunna thabita ou c'est juste permis? C'est permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait car c'était une habitude parmi les habitudes des Arabes. Les Arabes, à l'époque, quand ils voulaient parler devant tout le monde, ils tenaient un bâton. Alors, est-ce qu'il l'a fait par habitude, il a continué? Ou est-ce que c'est une sunna? Les savants ont divergé. La base, c'est que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, c'est instaurer de le suivre en cela. Donc, Inch'Allah, c'est instauré de le suivre dans ce point-là aussi, c'est-à-dire de s'appuyer sur un bâton pendant la khutbah. Mais, si quelqu'un le délaisse, il n'y a aucun mal. Car il y a une sagesse derrière cela. Ils disent le fait que le khatib, celui qui fait la prêche pendant le Jumu'ah, il s'appuie sur un bâton. C'est un appui physique qui lui donne un appui moral. C'est-à-dire, quand on est appuyé sur quelque chose, on sent qu'on est plus stable. C'est pas comme si on est sans rien, comme ça, on n'a pas d'appui. On ne sait pas quoi faire des mains, on les bouge dans tous les sens. Non. Celui qui n'en sent pas le besoin, s'il le délaisse des fois, il n'y a aucun mal en cela. Il n'aura pas fait le contraire de la sunna du prophète alayhi salam. Kadhalika, il est permis au khatib, au prêcheur, de parler à qui il veut parmi les prieurs. Par exemple, il voit quelqu'un qui vient, qui s'est assis sans faire de rakat. Il lui dit, toi un tel, lève-toi et fais de rakat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a vu quelqu'un entrer pendant le Jumu'ah, qui s'est assis directement, et lui a dit, lève-toi et fais deux rakat et fais-les légèrement. C'est-à-dire, ne tarde pas dans tes deux rakat. De même qu'une fois, il a vu quelqu'un passer au-dessus des épaules des gens, il a dit, ijlis, assieds-toi, car ça y est, tu as fait assez de mal. Une autre fois, une personne est entrée, il lui a posé une question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le Jumu'ah, il est descendu. On lui a amené une chaire, il s'est assis, et il a enseigné l'islam à cette personne, tout le monde l'attendait. Quand il a fini de lui enseigner l'islam, il est revenu, il a repris sa khutba. De même qu'il est permis au khatib d'encourager les gens à faire sadaqa pendant le Jumu'ah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu rentrer quelqu'un qui était très pauvre. Et ça se voyait sur lui. Il lui a dit, lève-toi et fais deux rakat. Et tous les sahaba, ils ont vu quand il a fait deux rakat. Quand il l'a interpellé, tout le monde s'est tourné vers lui. Ils ont vu son état. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de faire sadaqa pour cette personne. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté de parler, ils lui ont réuni des vêtements et lui ont donné sadaqa. Mais ça, pas pendant que l'imam y parle. Parce que quand l'imam parle, on doit l'écouter et ne s'occuper de rien d'autre. Vous imaginez que celui qui touche juste la moquette, ou bien qui joue avec des pierres, déjà il est diminué de sa valeur de khutba, dans la Jumu'ah. Alors imaginez-vous de s'occuper d'autre chose pendant le Jumu'ah. Même si il y a un besoin de réunir sadaqa, et le mieux, c'est de le faire même après la prière. Donc, c'est permis qu'il arrête sa khutba, qu'il aille s'occuper d'une chose et qu'il revienne faire sa khutba. D'ailleurs, le hadith de Jabir ibn Abdillah, le hadith qui est apporté par le Bukhari, qui est un hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à quelqu'un de lui faire un mimbar. Il lui a fait un mimbar à trois marches. D'ailleurs, la sunna, c'est trois marches. Il a demandé qu'on lui fasse un mimbar à trois marches et auparavant, il pesait sa prêche sur un tronc de palmier. Quand il s'est levé sur le mimbar pour faire sa prêche, le tronc de palmier a pleuré. Naam, c'est rapporté dans le Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu de son mimbar, il a été le calmer. Le hadith il dit il a pleuré comme un enfant. Car il avait l'honneur de porter le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait le dhikr, qui faisait le rappel sur lui. Et d'un coup il s'est retrouvé délaissé pour autre chose. Ça fait partie des miracles qu'Allah tabarak ta'ala a donné au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été le calmer comme on calme un enfant. Et il est revenu faire sa khutbah. Donc, ça prouve que quand il y a un besoin, on peut couper la khutbah, aller faire quelque chose et revenir. Mais s'il y a vraiment un besoin, c'est permis. Et le hadith aussi, de Abi Rifa'a, il dit, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est Abi Rifa'a. Et pendant qu'il faisait sa khutbah, je lui ai dit, voilà un homme qui est venu demander sur sa religion, il ne connaît pas sa religion. En pleine khutbah, il lui a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, on lui a ramené une chaise, il s'est assis, il lui a expliqué l'islam, après il est revenu, il a refait sa khutbah. Ça, ça prouve quoi aussi? Que si vraiment il y a une nécessité, s'il y a un besoin, c'est permis aux fidèles de parler à l'imam. S'il y a un besoin. Une autre chose, il est permis, s'il y a un besoin aussi, de laisser un petit moment, une coupure entre la fin de la khutbah et la salat. On va parler de certains actes que le ma'moumin, que les fidèles font au moment de la khutbah. La première des choses, s'approcher de l'imam. Donc le hadith de Samura ibn Jundub, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, participez au rappel, c'est-à-dire à la prêche du vendredi. Et approchez-vous de l'imam, car la personne ne cesse de s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit retardé et éloigné au paradis, même s'il y entre. De même que dans le hadith de Aous ibn Aous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, ce hadith est rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi, c'est un hadith sahih, celui qui se lave le jour du Jumu'ah et qui va à la mosquée tôt et qui va en marchant sans prendre la monture et qui s'approche de l'imam et qui écoute et qui ne fait pas de futilité, alors Allah lui écrira pour chaque pas qu'il fait une année de récompense comme s'il avait jeûné toute cette année et prié toutes les nuits. Deuxième chose que le ma'moumin, que les fidèles doivent faire, c'est tourner leur visage vers le khatib. En cela, il n'y a pas un hadith qui est rapporté, mais il y a des paroles de sahaba radiallahu anhum, et il n'a pas été rapporté que quelqu'un a divergé avec eux sur ce sujet. Cela a été rapporté de Abdullah ibn Omar, quand l'imam s'asseyait, il tournait son visage vers lui, et ça a été rapporté par Abdurrazzaq avec une bonne chaîne de transmission. De même que ça a été rapporté de Anas, c'est rapporté par Ibn Abi Shayba et Ibn al-Mundhir, et c'est un hadith sahih, où Anas radiallahu anhu est venu le jour du vendredi. Il s'est appuyé au mur et il a tourné son visage vers l'imam. Et l'imam Tirmidhi, il a dit ça, les compagnons agissaient de cette manière, de se diriger vers l'imam, idha khataba, quand il fait la prêche. La troisième chose, donc les deux premières qu'on a citées, c'est recommandé. Celle qu'on va citer maintenant, c'est obligatoire. Écouter attentivement la prêche et ne pas parler. Et on a déjà vu plusieurs hadiths depuis le début des cours sur le fait que pendant le Jumu'ah, il ne faut s'occuper de rien d'autre. Tu dois être concentré vers ce que le khatib te dit pour ressortir du Jumu'ah avec un profit. D'ailleurs, ça ouvre une parenthèse, le fait de ne pas embellir les mosquées. Ce sont des choses en plus qui peuvent attirer ton attention, qui vont faire que tu vas perdre ta concentration. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été gêné par des dessins. Donc, dans le hadith de Salman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne ne se lave pas le jour du Jumu'ah. Il a cité plusieurs choses, il se lave, il y vient, etc. Puis, il écoute les paroles de l'imam sans se déconcentrer, sans qu'Allah lui pardonne entre le vendredi dernier et ce vendredi. C'est un hadith sahih. Hadith de Abi Huraira aussi, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu dis à ton compagnon le jour du vendredi, tais-toi, alors que l'imam est en train de prêcher, tu auras fait une futilité. Donc c'est interdit de parler pour quelqu'un, un fidèle qui est dans le Jumu'ah. Si certains qui sont présents disent à quelqu'un de se taire juste avec des gestes, il n'y a pas de mal. Quelle est la preuve de cela ? Le hadith de Anas, ce hadith est rapporté par al-Bukhari, Ibn al-Mundhir, Ibn Khuzaymah, c'est un hadith sahih. Une personne s'est levée pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prêche. Il lui a dit, quand est-ce que l'heure va venir au messager d'Allah ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Les gens lui ont fait signe de s'asseoir, ils lui ont fait comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, il a vu les compagnons lui faire signe, il ne les a pas repris. Ce qui prouve, c'est qu'il a approuvé cela et que c'est permis de faire des signes s'il y a un besoin. De même, répondre au salut. Quand dans le Jumu'ah, quelqu'un nous passe « Assalamu alaikum », normalement, on est obligé de répondre. Mais pendant le Jumu'ah, on ne répond pas, sauf avec un geste. Parmi les choses aussi, de ne pas passer au-dessus des épaules des gens. Si tu veux les premières places, viens tôt. Selon Abdullah ibn Busr, il a dit « Une personne est venue et il passait par-dessus les épaules des gens. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Assieds-toi car tu as fait déjà trop de mal. » Et ce hadith est rapporté par Abu Dawud et Nasa'i et c'est un hadith hassan, acceptable. De même qu'on a vu dans le hadith de Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui passe par-dessus l'épaule des gens, au lieu que cela lui soit écrit la prière du vendredi comme récompense, on lui écrira juste la prière de Dhuhr. » Mais si les gens des premiers rangs n'ont pas rempli les places, n'ont pas fait leur devoir, car leur devoir normalement c'est remplir toutes les places vides. Alors si on voit une place vide devant, dans ce cas-là, si nous on passe par-dessus leurs épaules pour remplir cette place, on n'a pas de péché et ce ne sera pas interdit, ce sera eux qui seront responsables. Car ils n'ont pas fait leur devoir de remplir la place vide qui est devant. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis celui qui part au Jumu'ah, et qu'il ne divise pas entre deux personnes, et qu'il prie ce qui lui a été prescrit, ou ce qui lui a été écrit par Allah, tabaraka wa ta'ala, et quand l'imam sort, il écoute avec attention, Allah lui pardonne entre le Jumu'ah passé et ce Jumu'ah, comme on a vu. Donc là, il parle bien du fait de séparer entre deux. Et d'ailleurs, c'est l'autre point dont on va parler maintenant, le fait de ne pas lever quelqu'un de sa place pour s'asseoir à sa place. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Ahmed, et Muslim, c'est un hadith sahih, il a dit que quelqu'un ne demande pas à quelqu'un de se lever le jour du vendredi pour prendre sa place, mais qu'il dise, élargissez-vous les frères, élargissez-vous. Mais ça, c'est avant la prêche. Autre chose, si le sommeil t'envahit pendant le Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné aussi une solution pour cela, dans le hadith rapporté par Ibn Omar, qui est un hadith que l'on trouve de Abu Dawud, et Tirmidhi et Ahmed, il est acceptable avec toutes ces chaînes de transmission, où il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, si l'un de vous s'endort pendant qu'il est assis le jour du vendredi, alors qu'il change de place. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous demandant de changer de place, la personne qui a sommeil, quand il bouge le sommeil, il repousse le sommeil. Donc si quelqu'un vraiment n'arrive pas à tenir pendant le Jumu'ah, il s'endort, il change de place. D'ailleurs, si l'imam voit quelqu'un qui s'endort complètement, il peut dire, tiens, dites au frère ici de changer de place. Hein? Il ne va pas s'amuser qu'à faire cela, mais hein, il n'y a pas de mal s'il le fait. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Non. Est-ce qu'il est permis pendant le Jumu'ah de s'asseoir les deux genoux, les deux cuisses collées sur le ventre et les entourer de ses bras ou d'un tissu? Il y a un hadith qui est rapporté en cela, que l'on va citer, après on va en discuter, Inch'Allah. Selon Mu'ad ibn Anas, selon son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir de cette manière-là que je viens de citer, le jour du vendredi alors que l'imam est en train de prêcher. Ce hadith, il est daif, il est faible. Il n'est pas véridique. Donc, on n'en tire pas des règles et des conclusions. Mais, c'est vrai que cette position-là, elle appelle au sommeil. Donc on dira c'est détestable de s'asseoir comme ça. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un hadith qui l'interdit, tout simplement car c'est une position qui ne t'aide pas à te concentrer, qui peut te pousser à t'endormir dans le Jumu'ah. Autre chose, si quelqu'un pendant la prière du Jumu'ah se souvient qu'il n'avait pas fait une prière obligatoire, par exemple il est assis dans le Jumu'ah, il écoute le khatib, il dit subhanallah, je n'ai pas prié l'Isha hier soir. Il se lève, il l'a pris tout de suite sur place. Et d'ailleurs, si c'est l'Isha d'hier soir, il devra faire l'Isha et le Fajr. Parce qu'il doit respecter l'ordre, tant que c'est moins que 5 prières. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a oublié d'une prière ou qui s'est endormi, qu'il la prie dès qu'il s'en rappelle, il n'aura aucune autre expiation à part de la prier dès qu'il s'en rappelle. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, on va parler de certaines choses à faire pendant la prière du Jumu'ah. Salatul Jumu'ah, c'est 2 rak'at. Ça ne remplace pas Dhuhr. Et il y a une prêche instaurée. C'est pas comme les gens croient. 2 prêches plus 2 rak'at, ça fait comme 4 rak'at. C'est faux. Non. Qu'est-ce qui est recommandé de lire pendant le Jumu'ah? Selon Abi Rafi', que Abu Huraira radiallahu anhu, il a prié la prière de Jumu'ah. Et il a récité après la Surat al-Jumu'ah. Dans la deuxième rak'at, il a récité Surat al-Munafiqun. Puis, on a parlé à Abu Huraira après qu'il soit parti. On lui a dit, tu as lu ces 2 sourates comme Ali ibn Abi Talib les lisait à Koufa. Alors Abu Huraira radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lire ces deux sourates dans le Jumu'ah. Ce hadith est rapporté par Muslim et Tirmidhi, Abu Dawud ibn Majah. C'est un hadith sahih. Donc, c'est une sunna de lire sourate al-Jumu'ah en entier. Dans la première rak'at de al-Jumu'ah, et sourate al-Munafiqun, les hypocrites, en entier dans la deuxième rak'at de al-Jumu'ah. De même que An-Nu'man ibn Bashir a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait dans les deux prières de l'Aïd et dans la prière du Jumu'ah, Sabbih isma rabbika al-a'la dans la première rak'at, et Hal ataka hadith al-Ghashiyah dans la deuxième rak'at. Celui qui arrive en retard, quand est-ce que sa prière sera comptée comme Jumu'ah et quand est-ce qu'il devra finir la prière comme Dhuhr? S'il a atteint avec l'imam au moins une rak'a de la salat, alors quand l'imam fait le taslim, les salutations finales, il finira juste une rak'a. Si par contre, il a atteint l'imam et la jama'a après que l'imam se soit relevé du rukou', de l'inclinaison, de la deuxième rak'at, de la deuxième unité de prière, quand l'imam fera les salutations finales, il devra faire quatre rak'at. La preuve de cela, c'est plusieurs paroles des sahaba. Parmi ceux-là, le hadith de Ibn Omar, il a dit, si la personne a eu une rak'at avec l'imam, alors il en rajoutera une avec elle. Sinon, il faudra, s'il les a trouvés assis, il faudra qu'il finisse à quatre rak'at. Après lui, cette parole est rapportée par Ibn Abi Shayba et Al-Bayhaqi et Abd al-Razzaq avec une chaîne de transmission véridique. De même que Abdullah ibn Mas'ud a dit, celui qui a eu une rak'at, il a eu la Jumu'ah, et celui qui ne l'a pas eu, alors qu'il prit quatre rak'at, et c'est rapporté aussi par Abd al-Razzaq et Ibn Abi Shayba et Al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission véridique. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il l'a rapporté de Anas, on n'a connu aucun parmi les compagnons qui a dit le contraire de cela, c'est comme si c'était le consensus des compagnons. Non. S'il y a beaucoup de monde et on est serré pendant la prière du vendredi, s'il peut, il a assez de place pour faire un recours et un soujoud, il doit le faire obligatoirement. S'il peut mettre son front par terre, il le met. S'il ne le peut pas, il se prosternera sur le dos de son frère. Il se prosternera sur le dos de son frère. Ou bien même s'il ne peut pas, juste avec les gestes. Tout cela, c'est valable. Car cela est valable pour celui qui est dans l'incapacité de le faire quand il est malade, n'est-ce pas? De même, quand il n'y a plus de place dans la mosquée, on est tous serrés, c'est une incapacité. Donc cette incapacité, elle nous donne l'autorisation de le faire. Quelle est la preuve de cela? C'est la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a dit, s'il y a beaucoup de monde, que l'un de vous se prosterne sur le dos de son frère. Et cette parole est rapportée par Abd al-Razzaq et Al-Tayal ici, avec une chaîne de transmission véridique. Si malgré tout ça, il reste encore plus de place, qu'est-ce qu'on fait? On priera dans les rues. Et on priera même dans les maisons qui sont collées au rang, comme à la Mecque par exemple. Quand il n'y a plus de place dans les rues, les gens ils prient où? Dans les hôtels, dans les commerces, dans les maisons. La règle c'est quoi? Si on est à l'intérieur de la mosquée, les rangs sont valides et sont comptés comme parmi la prière en groupe, peu importe où ils sont dans la mosquée. Même si on ne voit pas le dernier rang. Par contre, quand on est à l'extérieur de la mosquée, pour que les rangs soient valides et soient considérés comme les rangs de la jama'a, c'est qu'ils soient liés les uns les autres, même s'il y a quelque chose qui sépare entre eux, par exemple une route, un fleuve, un mur. Il n'y a pas de mal, tant que la liaison, elle est faite et qu'on voit les rangs qui sont devant. Ou bien que la liaison, elle ne soit pas interrompue pour rien. C'est ça la règle pour les rangs dans la prière, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Quelle est la sunna dans les prières de Jumu'ah? Il n'y a pas de sunna avant le Jumu'ah. Comme par exemple pour Dhuhr, les quatre rak'at avant Dhuhr. La sunna avant le Jumu'ah, c'est quoi? De faire des nafila, de faire des prières surérogatoires, tant qu'on veut, jusqu'à ce que l'imam vienne s'asseoir sur le mimbar. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à faire cela. Donc il n'y a pas une sunna spécifique le jour du Jumu'ah avant le Jumu'ah. Après le Jumu'ah, il y a une sunna. Et les gens ont divergé sur la sunna d'après le Jumu'ah. Car il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'on prie quatre rak'at à la mosquée. Et d'autres hadiths, le hadith de Abdullah ibn Omar, qui est rapporté par le Bukhari, par le Humaydi, et que la base c'est dans le Bukhari aussi, et Ibn al-Munzir et Muslim, où Ibn Omar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait rien après le Jumu'a, il rentrait chez lui, il faisait deux rak'at. La sunna, si on les prie à la maison, c'est de faire deux rak'at. Et la sunna, si on les prie à la mosquée, c'est de faire quatre rak'at. Non. Quel est le nombre minimal, minimum de personnes pour que la Jumu'a soit valide? Il y a 15 avis différents sur cette question. Et le plus juste, c'est de dire quoi? Le Jumu'a, c'est quoi? C'est une salat jama'a. C'est une prière en groupe. Le Jumu'a, à partir de deux personnes, il est valide. Certains, ils considèrent qu'il faut l'imam plus de personnes. Mais en vérité, c'est l'avis le plus juste. Et tout ce qui a pu être dit par les autres avis, il n'y a aucune preuve sur laquelle ils se basent. Autre chose très importante, subhanallah. Dans une même ville, on ne fait pas le Jumu'a dans deux mosquées différentes. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque des quatre califes, les gens venaient même des campagnes. Et ils laissaient toutes les mosquées qu'ils avaient. Masjid Quba, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masjid Quba, elle existe. Et d'autres mosquées à Médine. Le Jumu'a, ils délaissaient tous, toutes ces mosquées, et ils venaient à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le Jumu'a. Et c'est de là que vient le mot El Jami'a. Les gens disent, je vais au Jami'a. Ça vient du mot Jami'a. La grande mosquée, la mosquée du Jumu'a. Et dans un pays musulman, les mosquées sont différenciées l'une des autres. Il y a le Musalla. Le Musalla, c'est un endroit où on fait les prières, mais il n'y a pas le... On fait juste les prières, ce n'est pas une mosquée. On vient, on fait... Par exemple, on est dans une entreprise, on a un coin où on se réunit, on fait nos prières en groupe. Cet endroit n'est pas un waqf. Ça n'appartient pas à Wizarat al-Awqaf. Ça appartient à quelqu'un. Il en a juste fait un endroit pour faire la prière. Ça, ça s'appelle une Musalla. El Masjid, ça appartient à une personne morale, c'est-à-dire ça appartient à Allah, c'est un waqf. Ça ne peut pas être hérité. Il y a en France aujourd'hui des endroits avec des minarets, ce n'est pas des masajid. C'est une musalla. La prière dedans est valide, le jumu'a dedans est valide, on a la récompense, attention. Mais il y a certaines différences dans certaines règles. Comme par exemple, la femme qui a ses menstrues, elle peut rentrer dans cet endroit. Parce que ce n'est pas un masjid. Les deux rak'at de salutation de la mosquée, ce n'est pas vraiment une sunna. Si tu veux faire deux rak'at, fais deux rak'at. Puis, al-masjidul jami'a. Al-masjidul jami'a, dans les pays musulmans, c'était l'endroit où on faisait le jumu'a. Toutes les autres mosquées, elles fermaient le jour du jumu'a. Normalement, c'est ce qui devrait être fait. Pourquoi le jumu'a a été fait? Pour réunir tout le monde. La seule permission de faire jumu'a dans d'autres mosquées, c'est s'il n'y a plus de place dans la mosquée de la ville où on fait le jumu'a. Non. Si l'Eid tombe le jour du Jumu'a, est-ce que la personne qui a fait la prière de l'Aïd, il est obligé aussi de faire le Jumu'a? Ceux qui disent oui, et ceux qui disent oui, c'est la majorité des savants déjà. Ils disent quoi? Premièrement, Allah tabaraka ta'ala dans son Coran a dit que le Jumu'a est obligatoire, au moment nas, en général. Donc cette généralité, pour dire que le jour de l'Aïd tu ne le fais pas, il nous faut une preuve. Et pour nous, on n'a pas de preuve claire. Ça, c'est la première chose. Tous les hadiths, etc., qu'on a cités auparavant, dans l'obligation de venir au Jumu'a et d'assister à la khutbah. Il dit, tous ces hadiths, ça, tu les mets de côté parce que c'est le jour de l'Aïd. Qu'est-ce qu'il y a une preuve claire qui dit que le jour de l'Aïd, tu ne le fais pas? Troisièmement, ils disent, les deux prières sont deux prières obligatoires. C'est pas parce que tu fais une des obligations que tu délaisses la deuxième obligation. Quatrièmement, que la permission qui a été donnée, c'est spécifique aux gens qui habitaient loin de la mosquée, aux gens des campagnes, et non pas aux gens de la ville. Quelle est la preuve de cela pour ceux qui disent cela? Que Abi Ubaid, Mawla ibn Azhar, a dit, Ubaid, l'esclave ou l'affranchi d'Ibn Azhar a dit, j'ai assisté à la prière de l'Aïd avec Uthman ibn Affan, alors que c'était un jour du vendredi. Il a prié, puis il a prêché. Et il a dit, oh vous les gens, en ce jour aussi, deux fêtes se sont réunies pour vous. Celui parmi vous qui veut attendre la prêche du vendredi, parmi les gens de la Awali, c'était la campagne de Médine. Parmi les gens de la Awali qui veulent attendre le Jumu'a, qu'il le fasse. Mais celui qui veut retourner chez lui, je lui donne la permission. Donc eux, ils disent tous les hadiths qu'on va citer après, et des paroles de Sahaba, ils disent tous ces hadiths et ces paroles, on peut les interpréter que c'est une permission seulement pour les gens de la campagne, non pas pour les citadins. Voilà pourquoi ils disent que le Jumu'a reste obligatoire. Non. Le deuxième avis, c'est qu'il n'a pas la Jumu'a à faire, celui qui a prié l'Eid en Jama'a avec l'imam. Mais c'est recommandé à l'imam, c'est-à-dire c'est obligé d'établir la Jumu'a, mais c'est recommandé pour lui de faire la Jumu'a pour ceux qui n'ont pas prié la prière de l'Eid. Et ça, c'est la parole de la majorité des gens du madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. C'est rapporté aussi de Omar et de Uthman, de Ali, de Abdullah ibn Omar, de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Zubayr. Radiallahu anhum, ajma'in. Et tout cela, on peut le trouver dans le Mughni, dans l'Insaf, dans Kashaf al-Qanna' et Majmou' al-Fatawa de Sheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Toutes ces paroles de ces sahaba qui sont de cet avis-là. Sur quoi ils se sont basés? Sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Huraira. Sur un hadith rapporté par Abu Dawoud, Ibn Majah, Al-Hakim. Il y a en fait, il y a divergence sur la véracité de ce hadith. Il y a une grande partie des muhaddithines, des savants du hadith, a'allu hadha al-hadith. Ils ont trouvé qu'il y a un manquement dans ce hadith et qu'il n'est pas sahih. Mais une autre partie des muhaddithines, des savants du hadith, parmi les contemporains, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani, eux, ils voient qu'il est sahih. Ce hadith, il est sahih pour eux. Quel est ce hadith? Abu Huraira a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمْعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْشَاءَ اللَّهِ » Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aujourd'hui deux fêtes se sont réunies en un même jour. Celui qui veut, qui a prié l'Eid, ça lui suffira, il ne sera pas obligé de faire le Jumu'ah. Wa inna mujammi'una inshallah. Il a dit, mais moi, je vais faire la Jumu'ah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais moi, je vais faire la Jumu'ah. Le hadith de Uthman, qu'on a vu auparavant, le fait de dire que c'est juste pour les gens de la campagne. De toute façon, les gens de la campagne, à la base, ils sont même pas obligés de faire le Jumu'ah, s'ils n'entendent pas l'adhan. Donc, quel intérêt à leur donner la permission? Déjà, ils ont la permission de ne pas venir. Donc, ce n'est pas valable de dire que c'est pour les gens de la campagne seulement. Il y a aussi, Atta a dit que Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu wa an abih, a présidé la prière le jour de l'Eid, alors que c'était un jour du Jumu'ah, au début de la matinée. Puis, on est parti au Jumu'ah, et lui, il n'est pas sorti pour faire le Jumu'ah. Il a dit, on est reparti à la mosquée, il a dit, il n'est pas sorti pour faire le Jumu'ah. Alors, on a prié seul. Et Abdullah ibn Abbas était à Ta'if. Quand il est venu, on lui a énoncé ce fait, il a dit, en faisant cela, il a fait la sunna. En faisant cela, il a fait la sunna. Asaba sunna. Asaba sunna. Et quand un sahabi dit asaba sunna, ou quand un sahabi dit ceci est sunna, huwa fi hukmi al-marfu'. C'est comme si il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de le faire. C'est comme si c'était un hadith. Parce qu'un sahabi ne te dit pas ça c'est sunna, sans que pour lui, il ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire ou il l'a entendu le dire. N'est-ce pas? Comment il va dire que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il ne l'avait pas vu ou il ne l'avait pas entendu? Donc le fait qu'il dise que c'est sunna, c'est suffisant. C'est comme s'il disait, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Ou c'est comme s'il disait, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire. C'est pareil. Huwa fi hukmi al-marfu'. Non. Et cette parole, elle est rapportée par Abu Dawoud et An-Nasa'i et Ibn Khuzayma. Et c'est sahih, c'est véridique. De même que il a été rapporté d'Abdurrahman al-Sulami que à l'époque de Ali ibn Abi Talib, les deux Eid se sont réunis, c'est-à-dire le jour de Jumu'ah et l'Eid. Alors il a prié l'Eid, puis il a fait une prêche sur sa monture et il a dit, oh vous les gens, ceux parmi vous qui étaient à l'Eid, qui ont fait la prière de l'Eid, alors il a accompli son Jumu'ah, Inch'Allah. Et celui qui veut faire le Jumu'ah, qu'il le fasse. Et celui qui veut s'asseoir chez lui, qu'il reste chez lui. Qu'il reste chez lui. Et cette parole est rapportée par Ibn Abi Shayba et Abd al-Razzaq et Ibn al-Mundhir bi sanadin sahih, avec une chaîne de transmission véridique. Donc toutes ces paroles de ces sahaba, Uthman, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Abbas qui dit Asaba sunna, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, ça prouve clairement que c'est un hukm khas, c'est spécifique, quand le jour du Jumu'ah tombe, le jour de l'Aïd, celui qui a prié la prière de l'Aïd avec l'imam, il n'est pas obligé de faire la prière du Jumu'ah. Mais l'imam devra, c'est recommandé pour lui de faire la Jumu'ah, ou bien au moins de demander à quelqu'un de la faire. Pourquoi ? Pour que ceux qui n'ont pas eu la prière de l'Aïd, au moins fassent l'obligation de la Jumu'ah, car pour eux, l'obligation de la Jumu'ah n'est pas tombée. Non. Celui qui a fait l'Aïd et qui ne vient pas au Jumu'ah, est-ce qu'il doit prier la prière de Dhuhr ? Certaines personnes, comme Shawkani, disent que non, il n'a rien à faire. La majorité des savants, ils ont dit Hadath Shad, c'est une parole isolée vers laquelle on ne se tourne même pas, et ils disent on fera obligatoirement Salat al-Dhuhr. Une dernière chose, si les gens qui sont au Hajj sont à Arafah le jour du Jumu'ah, ils ne font pas le Jumu'ah. Ils feront Dhuhr et l'Asr réunis et diminués, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans Manasik al-Hajj. Et l'imam leur fait une khutbah, la khutbah de Arafah, la prêche qu'on fait le jour de Arafah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela le jour de Arafah. De même, ceux qui croient que l'Arafah il tombe le jour du Jumu'ah, c'est compté comme je ne sais combien de Hajj, ça c'est daif, ça n'existe pas, c'est des mensonges. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.